Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les péchés contre le Saint-Esprit sont un tel drame, une telle révolte, qu'on ne peut pas passer à côté sans chercher quel doit être le remède. Or, comme nous avons vu que le péché contre le Saint-Esprit est irrémissible, qu'il ne sera remis ni dans ce monde ni dans l'autre, dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, cela a quelque chose d'angoissant et en même temps de pressant, c'est-à-dire que nous devons faire un examen de conscience. Et si, grâce à Dieu, nous ne sommes pas encore atteints par ces péchés, ou si Dieu veut nous faire la grâce de nous en sortir, voyons avec sérieux quels sont les remèdes et quelle doit être notre attitude de vie chrétienne. Quant à ceux qui sont déjà plongés dans ce péché, nous avons vu avec saint Thomas qu'un miracle est toujours possible, et d'ailleurs c'est ce que laisse entendre la Sainte Vierge à Fatima, et nous verrons cela dans la deuxième partie du sermon. Donc voilà comment on va se diviser le sermon. Tout d'abord, l'opposé des péchés contre le Saint-Esprit, c'est la consécration au don du Saint-Esprit, consécration au Saint-Esprit et à ses dons. Deuxièmement, comment faire pour ceux qui ne sont pas encore atteints, tombés dans ce péché? Troisièmement, l'éducation de la jeunesse. Et quatrièmement, que faire avec ceux qui sont déjà tombés dans les péchés contre le Saint-Esprit? Tout d'abord, se consacrer au Saint-Esprit et à ses dons. Il faut revenir à ce qu'est la vie chrétienne. Par le baptême, le chrétien devient temple du Saint-Esprit. Et il faut prendre cela au sens fort, à savoir que le Saint-Esprit, avec toute la Trinité bien entendu, habite dans l'âme du chrétien. Je vais vous raconter une histoire. Théodore Botrel, que vous connaissez bien, le chantre, le barde breton, est appelé à témoigner à la chambre, je crois que c'était dans l'affaire Déroulède, une de ces affaires rocambolesques qui occupent la droite et excitent la gauche, sans jamais rien apporter, mais enfin, peu importe. C'était juste après la séparation de l'Église et de l'État, juste après 1905. Le président de la chambre demande à Théodore Botrel de lever la main, de jurer, de dire la vérité, et rien que la vérité, toute la vérité, de dire « je le jure ». Théodore Botrel regarde, sachant très bien qu'il n'allait pas trouver le crucifix, bien entendu, enfin il regarde dans l'assemblée et il dit au président « Où est le crucifix, monsieur le président, pour que je puisse jurer sur le crucifix ?» À ce moment-là, applaudissements à droite, le président jette sa petite sonnette. Lorsque le calme est péniblement revenu, le président dit à Botrel, « Monsieur Botrel, je vous réitère ma demande, veuillez me prêter serment. » Botrel lui répond, « Monsieur le président, puisque vous réitérez votre demande, je réitère la mienne, où est le crucifix ?» À ce moment-là, c'est tonnerre d'applaudissements à droite. De nouveau, la petite clochette du président s'agite. Lorsque le calme est revenu, Botrel dit, « Puisque tout chrétien en état de grâce est le temple de la Sainte Trinité. Sur la Sainte Trinité qui habite dans mon âme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je jure de dire toute la vérité. » Voilà un homme qui savait ce qu'est un chrétien. Le chrétien est consacré à Dieu, consacré à la Sainte Trinité, donc consacré au Saint-Esprit, la Sainte Trinité habite réellement dans son âme. Les péchés contre le Saint-Esprit consistent à refuser cette présence du Saint-Esprit, ou au moins refuser ses dons, ce qui revient au même, de façon à mieux pécher. Par conséquent, le remède, ou plutôt la prévention, c'est-à-dire ce qui évite de tomber, enfin bref, l'opposé des dons du Saint-Esprit, c'est la consécration à Dieu. Cette consécration se fait par la grâce et par les vertus de foi, d'espérance et de charité. La foi étant la première, elle se vit dans les vertus et surtout, elle s'épanouit dans les dons du Saint-Esprit. Et les dons qui sont concernés ici, ce sont ceux de la foi, à savoir le don d'intelligence, le don de sagesse et le don de science. Je ne vais pas vous développer ces trois dons, ça serait beaucoup trop long, il faudrait un sermon pour chacun. Mais il faut justement faire une synthèse. Le don d'intelligence nous fait pénétrer la foi, c'est-à-dire pénétrer la sagesse divine, c'est-à-dire considérer que la vérité de Dieu est une sagesse, et que cette sagesse dirige le monde, ou plutôt que le monde doit se diriger sur elle, et que les hommes doivent se diriger sur cette sagesse. Et par conséquent, la consécration au don d'intelligence, au Saint-Esprit, à travers le don d'intelligence, c'est de tout éclairer par la sagesse divine. C'est ce que Mgr Lefebvre appelait l'esprit de foi. Or, nous voyons que même les catholiques qui ne sont pas tombés dans les péchés contre le Saint-Esprit ont du mal à tout éclairer par la sagesse divine. La vie personnelle, mais la vie de l'Église, l'exercice du ministère ecclésiastique dans la papauté, dans les évêques, dans les prêtres, pourquoi y a-t-il tant de défections dans l'Église ? Parce que on ne suit pas, on ne s'en remet pas à la sagesse de Dieu, et on suit une sagesse plus ou moins humaine qui n'est pas une sagesse, et surtout, hélas, l'intérêt. Et quand on a pénétré cette sagesse, alors on obtient le don de sagesse, qui juge de tout selon les principes les plus élevés. Cette sagesse est liée à la charité, c'est-à-dire à l'amour de Dieu. Et c'est à cause de l'importance, de l'intelligence, des choses de la foi, donc le don du Saint-Esprit, de la sagesse, don du Saint-Esprit, et de la science qui est le corollaire de la sagesse. C'est à cause de cela que les ennemis de Dieu ont cherché à détruire la notion de vérité et qu'ils y sont, hélas, si bien arrivés dans l'Église. Mais ça, vous le savez, je vous l'ai exposé déjà la dernière fois. Je pense malgré tout que tout cet exposé que je viens de vous faire mérite d'abord de longs développements, surtout une méditation, mais c'est toute la vie chrétienne, c'est toute la morale chrétienne. Je ne peux pas vous exposer de telles choses si élevées, si profondes, si importantes, si universelles en un seul sermon. Donc c'est la suite qui vous éclairera. Je vous l'ai dit, prenez le rosaire, récitez le rosaire, prenez l'enseignement de Mgr Lefebvre, méditez la sagesse de Dieu. Deuxième partie du sermon, pour ceux qui ne sont pas encore atteints, comment préserver leur consécration à Dieu, c'est-à-dire comment éviter de tomber dans les péchés contre le Saint-Esprit. Le corollaire des péchés contre le Saint-Esprit, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est l'aveuglement ou l'hébétude. L'aveuglement, c'est on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien. L'hébétude, c'est l'esprit de foi est très très émoussé et se limite à une vague foi. Et là, saint Thomas pose des questions très concrètes. Quelle est la raison, quelle est la source de cet aveuglement? Et il dit, ce sont les péchés de la chair, principalement les péchés qui emportent le plus de plaisir, c'est-à-dire la gourmandise et la luxure. Une petite précision, parce que beaucoup de personnes croient que la luxure, c'est le luxe, l'argent. Non, la luxure, c'est tout ce qui est contre la chasteté, contre la pudeur, contre le sixième commandement. Je ne peux pas me contenter de faire de la théorie, mes bien chers frères, parce que sinon je serais un prédicateur qui dit la vérité devant un bateau qui coule et qui ne met pas le canot de sauvetage à la mer. Et donc il faut entrer dans le concret des choses. Je crois que c'est assez facile à comprendre pourquoi la gourmandise et la luxure détournent l'homme des considérations de Dieu. Et parce qu'il est préoccupé par ses plaisirs, ses satisfactions. Les remèdes, le jeûne et la chasteté. Le jeûne, je vous l'ai dit, il y avait jusqu'à Pie XII, 53 jours de jeûne dans l'année, et tout le monde jeûnait. Le roi Louis XV, malgré toutes ses fautes, et justement à cause de toutes ses fautes, jeûnait tellement sérieusement pendant le carême qu'il devait changer ses habits à la fin du carême, parce que les premiers habits étaient devenus trop grands. Et la chasteté, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de ne pas tomber dans les péchés d'impureté, il faut cultiver la chasteté. Il faut reprendre, mes bien chers frères, le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, dans lequel saint Paul recommande la chasteté à tous, y compris à ceux qui sont dans le mariage. Et cela, on voit qu'il y a quelque chose de démoniaque dans l'impudeur qui a pénétré même dans les mariages. J'ai eu le témoignage d'un père de famille qui me disait qu'il n'avait jamais vu sa femme nue. Je suis persuadé que, en période de chrétienté, cela n'était pas une exception. L'usage du mariage n'est pas une autorisation de gourmandise débridée sous prétexte de mariage. L'usage du mariage, comme tout le reste, doit se faire sous le regard du Saint-Esprit, avec mesure et modération. Une des choses qui a le plus détruit la chasteté dans les mariages chrétiens, ce sont les méthodes prétendues naturelles de régulation des naissances. Ce n'est pas le moment de vous en parler, mais rien que de vous avoir donné le mot, le nom, doit vous mettre en garde. On discute beaucoup trop, savoir s'il y a péché, pas péché, péché mortel, pas péché mortel, que sais-je. On oublie de voir qu'il y a des choses qui détruisent la consécration au Saint-Esprit et que là est la gravité de ces pratiques. Enfin, et toujours, la consécration au Saint-Esprit s'accompagne du rayonnement de la foi, c'est le tout premier sermon que je vous fais, il faut tout le temps y revenir. Troisième partie du sermon, l'éducation de la jeunesse. Tout d'abord, la première communion est une consécration. Lorsqu'elle est bien faite, il devient difficile ensuite de tomber dans les péchés contre le Saint-Esprit. La grande épreuve, la première grande épreuve, évidemment, c'est la puberté. Saint Jérôme dit qu'il y a autant de mérite à conserver la chasteté pendant toute l'adolescence que en gagne un martyr en offrant sa vie pour le Christ. Cela veut dire qu'il est normal de donner ce goût de l'héroïsme et même du martyr, un martyr moral si l'on peut dire, aux jeunes, ils sont faits pour cela. Si on ne le leur donne pas, on vise trop bas, parce que Dieu nécessairement veut le bien, Dieu nécessairement veut qu'on ne tombe pas. Si pour ne pas tomber il faut l'héroïsme, c'est que Dieu veut l'héroïsme. Si pour ne pas tomber il faut le martyr, c'est que Dieu veut le martyr. Et là, en plus, il s'agit quand même d'un martyr supportable. Saint Jean Chrysostome, dans son traité d'éducation, dit qu'un père de famille raisonnable devrait faire jeûner son fils deux fois par semaine dès que celui-ci entre dans l'adolescence. Et il ajoute, il devrait le faire se lever chaque nuit, ne serait-ce que 10 minutes, pour adorer Dieu. Alors, comment se fait-il que tant de parents ne se préoccupent pas de fautes répétées contre la chasteté chez leurs enfants, ne se préoccupe pas de connaître quelles en sont les causes, ne confisque pas les smartphones qui sont des boîtes à pêcher que les jeunes portent constamment sur eux, sans parler d'Internet sur l'ordinateur. Et puis, il y a le dernier virage à bien prendre pour ne pas aller dans le fossé, c'est le choix de l'épouse ou de l'époux. Beaucoup trop de parents négligent le choix de l'époux ou de l'épouse sous l'angle de la consécration au Saint-Esprit. Il faut reprendre la vie des époux Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ont quand même eu toutes leurs filles religieuses. Ils avaient voulu être religieux l'un et l'autre, ils se sont mariés par devoir et sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils voulaient conserver la chasteté et c'est par devoir qu'ils ont eu des enfants. Jamais un jeune homme ne devrait choisir une jeune fille, jamais une jeune fille ne devrait choisir un jeune homme pour d'autres critères que ceux que je viens de dire. Enfin, dernière partie du sermon, pour ceux qui sont déjà opposés au Saint-Esprit, je vous l'ai dit, ce péché ne sera remis ni dans ce monde ni dans l'autre, voilà pourquoi un libéral est inconvertissable. Il faut donc savoir secouer la poussière de ses pieds, comme le demande notre Seigneur. Il y a des conversions qu'on ne peut pas réaliser, qui relèvent du miracle. Il faut donc aller en tout premier à ceux que, d'une manière ou d'une autre, Dieu éclaire lui-même, à ceux qu'il nous envoie, qu'il met sous notre route et que nous pensons pouvoir tourner vers Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Il serait déraisonnable de vouloir parler à quelqu'un qui est totalement opposé au Saint-Esprit avant que Dieu ait fait le miracle de lui ouvrir l'esprit et le cœur. Mais je vous l'ai dit, il faut demander le miracle, c'est ce que demande la Sainte Vierge à Fatima. Et le miracle passe quelquefois par nous, à nous d'être ingénieux. Le miracle s'obtient d'abord par la prière, il faut le demander. Prière et pénitence pour la conversion des pécheurs, c'est tout le résumé de Notre-Dame de Fatima. Deuxièmement, l'étude, de manière justement à enseigner la foi, à redresser les erreurs contre la foi, à enseigner la hauteur, la profondeur, la largeur, comme dit saint Paul, de la foi. Troisièmement, l'action. C'est ce que dit saint Pie X, il faut se lancer dans l'action, en devant de tels drames, on ne peut pas rester inactif. Et l'amitié. L'amitié qui est, dans ce cas-là, une ingéniosité de la charité. Un groupe de jeunes était en contact avec un autre jeune qui demande le baptême, et puis cela fait presque un mois, oui un mois, qu'ils n'ont plus de nouvelles alors qu'ils se téléphonaient toutes les semaines. Eh bien, un jeune a fait un voyage d'une journée spécialement pour retrouver son ami, pour voir, savoir ce qui se passe. Il n'a pas pu le retrouver, donc la semaine prochaine, un autre jeune va retourner une journée jusqu'à ce que cet ami soit retrouvé pour qu'il sache bien qu'il n'est pas abandonné dans ses difficultés, dans ses épreuves. Voilà qui est à la fois héroïque et sage. Héroïque, j'ai pas besoin de vous montrer pourquoi, parce que ce sont deux journées de travail de perdu, hein. Ce sont des jeunes qui travaillent, et je veux dire qui ont un métier, un salaire. Et en même temps c'est sage, parce qu'on se donne du mal pour celui que Dieu a désigné comme voulant amener à lui. On ne se donne pas du mal n'importe comment. Le résumé de mon sermon, ce pourrait être « Ô vous qui avez encore la foi !» Ô vous qui respectez encore le Saint-Esprit, faites que vos enfants dans vos familles honorent et respectent le Saint-Esprit, faites que vos familles soient véritablement des temples du Saint-Esprit. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Notre-Dame de Fatima, sauvez les pécheurs, aidez-nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.